Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 9h, bien entendu. Alors, tel qu'on a lancé avant les publicités, on va se lancer dans le domaine de l'éducation et un mouvement qui nous propose depuis déjà quelques années une réflexion autour du système éducatif québécois qui, au fil de quelques colloques, a jeté ses bases, les bases de cette véritable révolution éducative et notamment, tout particulièrement, lors de la 4e édition de son colloque qui s'est tenu au mois d'avril dernier à l'Université Laval. Pour en discuter avec nous, pour parler des bases, justement, de cette véritable révolution éducative, mais je suis en compagnie du président du mouvement, Gaston Marcotte. Bonjour.
Bonjour, Raymond.
Alors, mais peut-être pour reviser, tout d'abord, on parle de refonder l'éducation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le mouvement humanisation, pourquoi, justement, faut-il refonder le système éducatif?
Disons pour les auditeurs, Raymond, rapidement, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai réalisé en faisant une étude sur l'éducation fondamentale que, en fait, l'éducation n'avait pas de programme d'humanisation. Et pour moi, éduquer, c'était avant tout humaniser un être humain, lui donner les outils, si vous voulez, de devenir de plus en plus autonome, de plus en plus responsable, de plus en plus moral, si vous voulez, dans ses comportements et solidaire avec le reste de la société. Alors, pour un éducateur, c'est quand même assez traumatisant de se rendre compte tout à coup que notre propre profession n'a pas de fondement. Et ça m'a tellement, je dirais, frappé que j'ai décidé de passer le reste de ma vie à savoir pourquoi l'éducation ne s'était pas donnée des programmes d'humanisation fondés sur une science et un art du développement humain. En cherchant ça, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas une science et un art du développement humain adapté à chaque catégorie d'âge et enseigné par des gens formés spécifiquement pour aider un être humain dans son processus. Parce qu'on oublie, c'est les êtres humains naissent humains qu'en potentiel. Théoriquement, quand on est humain, s'il n'y a pas une culture pour l'humaniser, l'humain reste un animal ou un sauvage. Et les enfants sauvages ont démontré que si on ne reçoit pas très tôt une culture humaine, on ne peut plus ensuite réintégrer et prendre sa place dans la société. D'une certaine façon, on reste plus un animal qu'un humain.
Donc, on ne donne pas assez, dans le fond, de savoir éthique, par exemple, versus du savoir utilitariste, un peu dans l'idée de former les travailleurs, par exemple?
Avant tout, c'est que cet être humain-là vit au monde avec un potentiel que l'évolution a mis des milliards d'années à mettre en place, c'est-à-dire que différentes potentialités. C'est pour ça qu'on parle des différentes dimensions de l'être humain, corporel, affectif, sexuel, mental, même environnemental, social. Ces différentes, je dirais, secteurs ou de relations humaines que l'être humain a avec lui-même et ensuite il y aura avec la réalité, avec la vie, avec autrui, la société, l'environnement. Il doit apprendre ça. Et c'est uniquement apprendre à être humain. C'est pas apprendre à être médecin, avocat, dentiste ou quoi que ce soit. Ça, ça devrait venir dans un deuxième temps, parce qu'en général, faut gagner notre vie. Alors, c'est une réalité, mais dans le premier temps, faut devenir un humain moral avant tout. Ensuite, on aura peut-être moins de politiciens corrompus, moins, je dirais, de professionnels qui abusent des clients ou quoi que ce soit. Et donc, nous, on a réalisé entre-temps que la cause principale de la misère, la pauvreté, l'ignorance et la souffrance humaine était le sous-développement humain.
Et donc, dans le fond, au fil des derniers colloques, parce que vous en êtes au quatrième, comme on le disait tout à l'heure, donc vous avez jeté un peu les bases de tout ça. Qu'est-ce que c'est, par exemple, une éducation humanisante? Comment professionnaliser, au bout du compte, l'enseignement dans ce cadre-là? Donc, il y a des bases qui ont été mises en place, des bases de réflexion qui ont été mises en place.
Voilà. En autre mot, moi, je m'étais très bien rendu compte à la lecture de ça que l'éducation, un peu partout à travers le monde, était en crise. Et c'est des crises. On fait des réformes, je dirais, presque constamment, mais ça change rien pour le lendemain. Les structures, la philosophie, les orientations globales font en sorte que ça bouge très peu, peu importe les bonnes intentions des différentes commissions, que ce soit le rapport parent ou la commission des États généraux. Alors nous, on s'est dit avant tout, faut déterminer les causes de ce manque-là. Donc pourquoi les êtres humains ne se sont pas donnés une philosophie humaniste, si vous voulez. Donc, une philosophie de vie basée sur les exigences de bon développement et de bon fonctionnement de l'être humain dans ses différentes relations, dans différents rapports, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la vie, avec la réalité, l'environnement, soi-même, autrui, société, environnement, humanité. Alors, en autre mot, c'est ce qu'il faut donner à un enfant. Oui, l'aider à actualiser ce potentiel-là est surtout mental. En autre mot, nous, ce qui nous distingue de nos ancêtres, les primates, les grands singes, c'est nos capacités mentales.
Et qu'est-ce qui avait amené l'humanité, justement, vous vous disiez, un peu cibler les raisons derrière ce choix-là? Quelles sont les raisons derrière ce choix-là?
Bien, je vous dirais, les raisons majeures, c'est qu'au début, les premiers qui s'étaient donné leur sciemment, intentionnellement, la vocation sociale, la fonction sociale d'aider les êtres humains dans ce processus-là, c'était les Grecs l'ère classique. Mm-hmm. À partir de Platon, Aristote, un peu avant avec les pré-socratiques, mais avec Socrate, tout ça, ils ont commencé à utiliser la raison, et ils l'avaient dit très clairement, trouver la juste manière de vivre pour être heureux. Ils avaient saisi intuitivement, maintenant on le sait biologiquement, on l'a démontré, que l'être humain ne veut pas, aspire pas uniquement à vivre, il veut vivre heureux. Or nous, c'était notre premier constat, c'est que tous les êtres humains veulent vivre heureux, donc toute l'éducation devrait servir à leur donner les outils pour répondre à leurs besoins, leurs désirs, leurs aspirations, dont dépend leur bonheur, non seulement individuel, mais aussi collectif. Et maintenant, on sait que c'est même la survie de l'espèce qui va dépendre à notre capacité d'humaniser davantage les humains.
Parce qu'on s'est éloigné un peu de ce désir d'être heureux?
Et pas du désir d'être heureux, mais des moyens d'y arriver. Mmh. C'est-à-dire que les philosophes, quand la chrétienté, l'ère chrétienne est arrivée, les philosophes ont été mis au service de la théologie et non plus au service de l'humain dans son processus d'humanisation. Et avec la Renaissance, les philosophes n'ont pas repris cette fonction qui s'était donnée. Et c'était pendant l'ère chrétienne, c'était un peu les curés, les maîtres de, comment on les appelait, les confesseurs et nos directeurs de conscience. C'est eux qui se sont donné la responsabilité de guider les humains, mais pour un bonheur éternel, surnaturel, et non plus sur la terre. Et non pas à partir de l'être humain et de ses besoins, mais à partir de certaines révélations ou les grands livres, que ce soit la Bible pour les Juifs, l'Évangile pour les chrétiens, le Coran pour les islamistes. Alors donc, chacun s'est donné des formes, mais c'était pour un bonheur extraterrestre. Et non pas à partir de la nature humaine.
Parce que ça reste quand même une certaine forme de morale, malgré tout.
Toujours. Les religions sont avant tout des morales. Et c'est pour ça qu'actuellement, au Québec, si tu veux que juste un petit aparté là-dessus, Raymond, c'est que le cours d'éthique religieuse, on a déconfessionnalisé l'école. On devait mettre un cours d'éthique et un cours de culture religieuse, pour lequel moi je suis 100% d'accord, mais à condition que la culture religieuse soit donnée à part en histoire, si c'est de la culture religieuse. Et les croyants, le lobby religieux a bien compris que si on séparait la morale, l'éthique de la religion, que les religions perdaient en grande partie, je dirais, ce qui laisse sous-entendre que sans eux, on n'aurait pas de morale dans la société, ce qui est absolument faux. Alors donc, nous, tout le problème moral s'est posé aussi en cours de route et très rapidement.
Parce que j'imagine qu'avec l'idée justement de cette refonte-là que vous proposez, c'est d'essayer de développer justement une culture morale, de se donner les outils, mais en l'astreignant dans le fond, j'imagine, de contraintes liées par exemple à la religion, liées par exemple à une perspective utilitariste de l'éducation, du moins au niveau, au départ d'une certaine manière.
Ben, tu vois, ce qui est arrivé, et comme les philosophes ont un peu démissionné, ils ont été remplacés un peu par les curés, les prêtres et les directeurs de conscience, et comme eux, on a dans les démocraties sécularisées. Donc, on a sorti un peu la religion. Au Québec, on est des derniers là, à faire cet effort-là. Mais ça veut dire que c'est les professeurs, les enseignants, indirectement, sans s'en rendre compte, qui ont assumé cette tâche. Et au Québec, dans nos politiques, la grande, je dirais, raison d'être du système, surtout de l'éducation obligatoire, c'est le développement intégral de la personne. En autre mot, en cours de route, historiquement, ça allait tomber dans la main des enseignants, mais eux n'étaient pas formés pour ça. Ils étaient formés au début pour enseigner les Anglais « reading, writing, arithmetic », pour écrire, pour compter, puis pour lire. Et donc, ils étaient des enseignants, et lentement, ils ont su la tâche sociale, la fonction que les autres avaient laissé tomber ou qu'on avait mis à la porte, de humaniser les êtres humains. Malheureusement, leur formation n'était pas là-dessus. Ils n'ont pas senti le besoin de fonder ces programmes-là. Alors, au colloque, notre dernier colloque le 18 avril, un des conférenciers qui est au niveau du doctorat, Christophe Navel, et j'ai un autre étudiant qui avait fait une étude de maîtrise là-dessus, a fait une étude près des enseignants, et les enseignants avaient de la difficulté pour la plupart uniquement de dire la fonction sociale du système de l'institution éducative. et leur vision de l'être humain qui est leur premier objet. Si tu vas humaniser un être humain, le premier objet que tu as à connaître, c'est l'être humain dans ses différents processus, dans son développement et son fonctionnement. Or, d'après les données préliminaires, ce qu'il nous a dit, c'est qu'après 4 ans, les enseignants en savent pas plus qu'un étudiant d'une autre faculté sur l'être humain et son développement. Alors, ça serait comme demander à un médecin c'est quoi ta fonction sociale, puis il pourrait pas te dire que son rôle, lui, c'est de guérir. Et en même temps, il n'y aurait pas plus de connaissances qu'un avocat sur la guérison, la maladie puis le corps humain.
Donc, on aurait trop axé, dans le fond, sur la technique de l'enseignement?
On est resté sur une transmission de connaissances. Et c'est clair, les finalités des États généraux de 95-96, le premier, c'est instruire. Et tant que tu ne dis pas instruire, pourquoi? Le deuxième, c'est socialiser, en faire un bon citoyen, mais pourquoi? On a voulu en faire des bons chrétiens, des bons démocrates, des bons communistes, des bons socialistes, des bons fascistes. Alors, tant que tu n'as pas mis une finalité au système, on peut en faire ce que veut. Et c'est pour ça que l'éducation a toujours été asservie au pouvoir en place, que ce soit l'Église, l'État, le dictateur, la royauté ou actuellement l'entreprise. Parce qu'on n'a pas donné à l'éducation obligatoire cette fonction première pour une espèce dont ses membres viennent au monde, qu'en potentiel, la priorité, cet enfant-là a droit à une éducation humanisante.
Donc, il faudrait dire instruire pour devenir, pour humaniser, éduquer
tout.
Pour...
Instruire, la première chose, apprenons-leur à bien parler, bien écrire leur langue, pour après ça, pouvoir actualiser les différents potentiels qui relèvent de ça, et surtout développer leur potentialité mentale, la conscience de soi, la raison, la volonté, le langage, et de là, va venir ce qu'on appelle, nous, l'autonomie, la créativité, la moralité, la solidarité, qui est dans les démocraties, c'est ce qu'on veut de tout citoyen, parce que le citoyen devient le souverain, si vous voulez. C'est à lui qu'on doit, c'est lui qui doit se donner ses lois, ses morales, tout ça.
Donc, d'une certaine façon, il faut mieux circonscrire un peu les objectifs de l'éducation pour les élargir, en fin de compte.
Voilà. Nous, le dernier colloque, puis... le philosophe Thomas de Coninck de l'université, lui, son thème était, la finalité ultime, c'est l'éducation, et c'était le thème du colloque. On s'est dit que le bonheur doit être mis là, parce que c'est l'aspiration profonde de tous les êtres humains, c'est naturel, c'est inscrit dans tout, je dirais, leur fibre. Alors, à ce moment-là, qu'on mette cela, que ça soit clair, que ça soit net, les gens veulent s'humaniser pour pouvoir répondre mieux, plus efficacement, plus rapidement, plus tôt dans la vie, à leurs besoins, leurs désirs, leurs aspirations qui rendent heureux. Et faire ça ensemble, puisqu'on vit dans des sociétés, puis maintenant, la société s'est rendue une société monde. Alors, donc, ça veut dire créer des programmes, avant tout. Mais pour créer des programmes, il faut avoir ce qu'on appelle une anthropologie éducative. En autre mot, il faut savoir qu'est-ce qui est dans les caractéristiques d'un être humain, qu'est-ce que ces caractéristiques-là commandent comme éducation. Alors, si l'être humain, on dit qu'en grande partie, il y a, disons, des potentialités mentales, bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces potentialités mentales se développent au maximum? Quand? Quelle sorte de connaissances? Quelles sont les pédagogies? Et ce qui est terrible, et quand on regarde l'histoire, Raymond, c'est qu'à travers l'histoire, au niveau technique, matériel, on a fait des progrès incroyables parce que c'est accumulatif. En autre mot, le vieux Ford à coups de pied, comme je dis de mon père, n'est pas les autos d'aujourd'hui. Il y a eu des progrès incroyables, que ce soit dans les bateaux, les avions, les communications, en médecine, en architecture. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut accumuler les connaissances et on laisse tomber tout ce qui n'est pas fonctionnel et on met en place ce qui est plus efficace. Alors, l'éducation, malheureusement, à chaque enfant qui naît, on recommence à zéro.
Et on remplit la jarre un peu trop.
Et donc, les seules choses qu'on peut améliorer, c'est les connaissances sur cet enfant-là et la façon de les transférer. Et surtout, les connaissances qui vont lui permettre d'actualiser ce potentiel-là. Pouvoir mieux réfléchir, mieux créer, être plus libre, plus autonome, être plus courageux. Tu vois, avoir une vision globale, une plus grande conscience des enjeux maintenant qui sont rendus planétaires. L'humanité fait face à des problèmes qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus nombreux et mondiaux. Et ça suppose beaucoup de, je dirais, de collaboration. Sinon, on n'arrivera pas à régler ces problèmes-là maintenant qui sont à l'échelle. Les problèmes climatiques, c'est à l'échelle, je dirais, de la planète. Si la pénurie de nourriture, ça devient à la grandeur de la planète.
Et Gaston Marcotte, dans tout ça, ben en fait, on parle, bien entendu, d'un plan de match pour redéfinir un peu, refonder l'éducation. On parle d'un plan stratégique de 13 points. J'ai l'impression qu'on a mis le doigt sur quelques-uns d'entre eux. Donc, circonscrire un peu mieux les objectifs d'éducation. On a parlé de mieux définir le rôle des enseignants là-dedans, notamment. Et dans tout ça, j'ai l'impression, en fait, avec la réforme, par exemple, qu'on a connue, que tranquillement, on parle de moins d'acquisition de connaissances, mais à la limite d'acquisition d'expérience, des choses comme ça. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction ou est-ce qu'on errait un peu avec cette réforme-là aussi, selon vous?
C'est pas... Les deux grandes réformes qu'on a eues au Québec, c'était celle du rapport Parent, de 1961-1966, et celle des États généraux, 1995-1996, auxquelles j'ai participé. Les deux... c'était donné comme priorité de centrer l'éducation. Et quand il parlait, puis il faut toujours bien distinguer entre l'éducation obligatoire pour tous les enfants et l'éducation qui inclut jusqu'au post-doctorat des spécialités. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'éducation obligatoire. Parce que l'enfant a un droit naturel à une éducation humanisante. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça passe par l'éducation obligatoire. Mm-hmm. Parce que le cégep, l'université, n'a pas cette fonction-là.
Donc, c'est primaire-secondaire.
Donc, avant tout, primaire-secondaire, la priorité devrait être d'actualiser le potentiel humain de l'enfant pour qu'il puisse avoir plus de chance dans sa poursuite du bonheur, dans sa quête du bonheur. Ça, c'est la première finalité, il faut la mettre là, tant qu'on n'a pas ça. Ensuite... on peut, à partir maintenant de ce que j'ai mentionné, une anthropologie éducative, commencer à bâtir des programmes d'humanisation basés sur une science, sur un art du développement humain. On a des connaissances maintenant, c'est pas possible. Mais parce qu'on n'a pas une finalité comme humaniser, ils sont dans toute discipline, jamais intégrés avec ce qu'on appelle un but transdisciplinaire, qui donnerait un sens aux disciplines. Là, les enfants vont à l'école, ils savent pas pourquoi on leur enseigne l'histoire, la géographie, les langues ou quoi que ce soit, parce que, et surtout, c'est jamais pour eux. Mais si vous centrez ça sur l'humanisation, là, vous allez être obligatoirement centré sur l'enfant, parce que vous allez être centré sur son actualisation, son potentiel d'humanité. Donc là, ça va donner un sens à l'école. Ça va donner une vision globale pour que tous les professeurs puissent travailler ensemble parce qu'ils auront la même finalité. Et actuellement, c'est pas le cas. Donc, voyez-vous, là, dans les actions concrètes, on se donne une anthropologie éducative, une science du développement humain. On bâtit des programmes adaptés à chaque catégorie d'âge. On forme ensuite une profession. Faut créer une nouvelle profession d'humanisateur. On a fait des enseignants, donc on a fait, si vous voulez, des enseignants de maths, d'histoire, géographie, tout ce que tu veux. Mais les enseignants eux-mêmes, donc c'est pas des professionnels, puis ils ont voté à 90% contre leur propre professionnalisation que le gouvernement avait voulu faire. Imaginez, c'est la profession la plus importante dans la société, parce que c'est elle qui détermine la qualité d'humain qu'on va avoir, et ces gens-là sont même pas professionnalisés, alors qu'on a 46 ou 60 quelque chose professions au Québec. Certaines, ben, des fois, on se dit même les médecins, les vétérinaires sont professionnalisés. Imaginez. Alors que nous, on n'a pas... Donc, c'était René Larouche, professeur de l'Université Laval, sociologue, qui depuis 30 ans travaille sa professionnalisation. Il a démontré que faut absolument qu'on professionnalise, sinon les enseignants, qui restent les techniciens, j'ai pas de problème avec ça. Mais à ce moment-là, créons une profession dont la finalité, c'est d'accompagner chaque enfant dans son processus global d'humanisation. Et donc, sa formation va être basée sur c'est quoi un humain, comment on développe chacune de ses, je dirais, dimensions, quelles sont les activités les plus à propos et des programmes pour chaque catégorie d'âge, quelles sont les conditions environnementales, le type de formation. Donc, voyez-vous, là, un autre projet, il faut absolument former une nouvelle profession. Puis il y a urgence, si vous voulez.
Oui, parce que c'est un défi quand même assez vaste. On imagine que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 5 ans, en 10 ans, une refonte comme ça de la base de notre société. Au bout du compte, parce que l'éducation, on s'entend, c'est la base sociale.
C'est la base, c'est l'avenir. Ça, on ne peut pas s'en sortir. L'avenir de toute société, en autre mot, on est responsable comme humain de nous-mêmes, de la société, de nos institutions. Et à ce moment-là, la qualité de toute société, surtout la qualité humaine, passe par l'éducation. Et ça, là, c'est un consensus à travers l'histoire. Alors, tous les gens qui parlent sur les problèmes mondiaux actuellement, ils reviennent tous à l'éducation, mais malheureusement, certains veulent qu'on revienne à l'éducation grecque, d'autres à l'éducation religieuse. Nous, on se dit non. Mettons en place, ce qui n'a jamais été fait, une éducation humaine.
Et c'est quoi la première étape? C'est quoi la prochaine étape pour le mouvement humanisation, justement, pour y aller de l'avant avec ce projet-là, pour essayer de pousser ce projet-là plus avant aussi?
Voilà. Nous, maintenant qu'on a ce qu'on appelle la vision globale, je vais reprendre un bouquin là, que j'ai écrit, qui va juste s'appeler « S'humaniser ou disparaître ». Là, on est capable de travailler sur un bouquin qui est un manifeste. Ça va être juste pour un monde plus humain. On dit, dans tous les secteurs de l'activité humaine, si on veut s'humaniser davantage compte tenu des exigences de l'être humain, voici ce qu'on devrait faire. Alors donc, je dirais, et nous, on a fini ce qu'on appelle notre structure, notre base conceptuelle. Alors là, on a mis ça dans un petit paquet là, mes collègues vont recevoir. Et là, on va aller aux institutions responsables. Alors, donc moi, comme je suis un universitaire, comme on a une faculté des sciences de l'éducation, ben ma première démarche, c'est de demander à mon recteur, ce sera de lui demander qu'est-ce que vous faites devant cette obligation là qui relève de notre institution qu'on n'a pas remplie. Et ça va être la même chose pour le ministère, le premier ministre de la province, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Parce qu'il n'y a pas d'approche curative, c'est-à-dire préventive, supérieure à un programme d'humanisation. Parce que si vous me donnez un être humain qui est de plus en plus autonome, qui est de plus en plus responsable, moral, s'il est de plus en plus créateur, ben, vous avez le citoyen idéal pour une démocratie qui est, si vous voulez, où le peuple est souverain. Et si vous avez des citoyens intelligents, responsables et créateurs, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre société. Hein? Mais le problème, c'est que l'éducation actuellement ne forme pas... Je le sais, j'ai passé ma vie à l'université. C'est pas ce genre d'individu qu'on forme.
Alors, enfin, un défi, ma foi, fort pertinent, qu'on continuera de suivre, d'ailleurs, au fil des prochains mois, des prochaines années, donc au fil des réflexions également qui se bâtissent. Si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, vous avez un site Internet, c'est le www.mouvementhumanisation.org. Gaston Marcotte, président du mouvement, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.